France Culture.
Et le journal de la rédaction vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Benjamin Netanyahou est en route pour Washington. Donald Trump dit espérer un accord cette semaine entre Israël et le Hamas pour une libération d'otages. Nous serons à Jérusalem dès le début du journal. Aux États-Unis, les équipes de secours continuent de rechercher activement des dizaines de personnes toujours portées disparues après d'importantes inondations qui ont fait plus de 80 morts. Le tout, on le verra, sur fond de polémiques embarrassantes pour l'administration Trump. L'actualité en France et notamment cet appel du Quai d'Orsay à suivre scrupuleusement ses conseils aux voyageurs et en particulier la recommandation de ne pas aller en Iran où un touriste est aujourd'hui porté disparu. Enfin, nous serons à la cour d'assises spéciale de Paris où le verdict est attendu au procès de l'attaque islamiste au couteau à la prison de Condé. Après 21 mois d'une guerre, d'une cruauté innommable, la paix est-elle encore possible au Proche-Orient? Hier soir, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont commencé à Doha en vue d'un accord de cessez-le-feu et de la libération d'otages contre des prisonniers. La première session s'est achevée sans résultat. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est envolé pour Washington où il doit rencontrer ce soir le président américain Donald Trump, lequel a dit espérer un accord cette semaine entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien. Sauf qu'il faudra pour cela surmonter encore de multiples obstacles avant de pouvoir seulement espérer peut-être parvenir à un éventuel accord de trêve. Alors les familles d'otages, elles se retrouvent une nouvelle fois dans l'expectative. Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a pu recueillir le témoignage de Ruby Shen, le père d'Itaï, l'un des 50 otages toujours aux mains du Hamas depuis 640 jours.
Itaï Shen a la nationalité américaine et son papa Ruby a évidemment beaucoup d'espoir à seulement quelques heures du dîner entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou.
We've had too many expectations.
On en attend beaucoup. Nous espérons que les États-Unis vont convaincre le Premier ministre que c'est le moment. C'est dommage que nous, les familles d'otages, ayons plus d'attentes vis-à-vis des États-Unis que de notre propre gouvernement, alors que 74% de la population israélienne est d'accord pour que les otages soient libérés.
Depuis 640 jours, le Hamas détient 20 otages présumés vivants et 30 dépouilles, dont, selon l'armée israélienne, celle d'Itaï Shen. La famille du soldat ne veut pas organiser de cérémonie tant qu'elle n'aura pas la preuve formelle de sa mort.
Le Hamas n'a donné aucune information sur son état ou l'endroit où il se trouve. Il y a toujours un doute parce que nous n'avons pas de preuves.
Les termes de la possible nouvelle trêve sont discutés en ce moment même à Doha, au Qatar. Les négociateurs échangent sur les modalités d'un cessez-le-feu de 60 jours, de la libération de 10 otages vivants et de la restitution de 18 corps.
Voilà, témoignage à Jérusalem recueilli par Thibault Lefebvre. Le bilan des inondations dévastatrices provoquées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Texas vendredi dernier, jour de la fête nationale, dépasse désormais les 80 morts et il pourrait encore s'alourdir à mesure que l'espoir de retrouver une dizaine d'enfants encore portés disparus s'amenuise. Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait probablement sur place en fin de semaine. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Et à cette tragédie, donc, a vite fait de se rajouter à présent une polémique sur non seulement la défaillance des services météorologiques décimés par les coupes budgétaires de l'administration Trump, mais aussi les dénégations du même locataire de la Maison Blanche sur les effets du réchauffement climatique, sur ces phénomènes naturels extrêmes appelés à se répéter.
Oui, absolument, d'autant que cette zone frappée par le drame, c'est une des plaines inondables les mieux identifiées en fait des États-Unis. Ce que l'on sait, c'est que les services météo ont lancé une première alerte jeudi après-midi, puis une alerte d'urgence vendredi vers 4h du matin alors que le niveau des eaux montait déjà dangereusement. Alors ces alertes, on les reçoit automatiquement sur les téléphones portables. Problème, dans ces zones de collines, la couverture réseau est défaillante. Beaucoup de gens disent ne pas les avoir reçues. Ou alors, d'autres estiment qu'elles n'étaient pas suffisamment alarmistes pour être prises en compte. Et puis la vague monstrueuse de 8 mètres a déferlé. Les prévisions de pluviosité ont été sous-estimées, estiment les responsables locaux, qui disent donc n'avoir pas, faute de données, ordonné d'évacuation. Or, il y a 8 ans déjà, lors d'une précédente inondations, ils avaient envisagé un système d'alerte complémentaire avec davantage de capteurs et des sirènes, mais ce projet n'avait pas abouti, faute de financement sans augmentation vertigineuse des impôts locaux et les subventions fédérales avaient été rejetées. Et c'est bien le sujet, en fait, le financement par l'État de ces services de prévision et d'alerte. Depuis janvier, l'administration Trump a déjà licencié des centaines d'employés et prévu une baisse de 25% du budget de cette agence météo américaine. Son démantèlement est d'ailleurs prévu par décret présidentiel. En mai, tous ces présidents, tous ces directeurs présents et passés de cette agence ont écrit à Donald Trump pour parler du danger face à l'accélération des phénomènes climatiques, des phénomènes niés, tournés en dérision ou au mieux minimisés par l'hôte de la Maison-Blanche et son entourage.
Merci Claude Guibal. De vastes étendues de forêts et de terres agricoles ravagées par des incendies en Syrie, là-bas près de 10 000 hectares sont d'ores et déjà partis en fumée dans la province côtière de Latakia où les pompiers sont confrontés à des conditions particulièrement difficiles et notamment la présence de restes explosifs dans ce pays meurtri par des années de conflit. 230 migrants qui se trouvaient à bord de deux embarcations gonflables surchargées au large d'une petite île grecque ont été secourus ce matin par des gardes-côtes. Hier, ce sont plus de 600 déracinés qui ont été sauvés dans cette même zone de la Méditerranée orientale. Sa disparition est jugée inquiétante. Un jeune franco-allemand de 18 ans, Lennart Monterlos, parti de Besançon le 13 août dernier pour traverser l'Asie centrale à vélo et actuellement en Iran, n'a plus donné de nouvelles depuis le 16 juin dernier, soit quelques jours seulement après le début de la guerre éclair entre Tel Aviv et Téhéran. Les proches du jeune homme ont posté hier un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Les précisions d'Éric Biegala.
Lennart Monterlos tenait un blog de voyage sur lequel il postait photos, vidéos et commentaires. Son dernier post date du 3 juin dernier, sans images, sans commentaires, mais avec une localisation, Yazd, dans le sud iranien, à environ 150 km des côtes du golfe Persique. Sa famille dit ne plus avoir de nouvelles de lui depuis le 16 juin. Or, entre le 3 et le 16 juin, le 13 précisément, Israël lançait une offensive majeure sur l'Iran, lequel répliquait à coups de missiles. La guerre était ouverte. Qualifiée de disparition inquiétante par les diplomates, celle de Lennart Monterlos peut être dû à une arrestation. Les Iraniens ont annoncé avoir arrêté plusieurs Européens, dont un Allemand et au moins un autre Européen, sans précision de sa nationalité. Ces arrestations se sont déroulées après la guerre de 12 jours. Le régime iranien, convaincu d'avoir été abondamment infiltré par des opérateurs israéliens, fait en effet la chasse à tout ce qui pourrait leur ressembler, notamment des Occidentaux entrés en Iran comme simples touristes. Mais au moment où Lennart disparaît, ne donne plus signe de ses mouvements, c'est-à-dire après le 16 juin, on est véritablement en pleine guerre. Celle-ci ne prendra fin qu'avec le cessez-le-feu du 25 juin, 10 jours plus tard.
Et je précise que ce matin, le Quai d'Orsay appelle les Français à suivre ses conseils aux voyageurs et en particulier la recommandation donc de ne pas aller en Iran. Qui de l'adjoint au maire, de l'expert, du syndic ou des copropriétaires a commis une éventuelle faute pénale après 6 mois de procès? C'est aujourd'hui que la justice doit dire si l'un ou plusieurs des 16 prévenus peut être tenu pour responsable de l'effondrement de deux immeubles vétustes de la rue d'Aubagne, ce drame du logement indigne qui avait traumatisé la cité phocéenne et dans lequel 8 personnes avaient trouvé la mort. C'était en 2018. Déjà 3 copropriétaires ont écopé ce matin d'une peine de prison ferme. 2 ans de prison avec sursis en revanche pour l'ex-adjoint au maire en charge de logement. La lecture du jugement se poursuit. Après 5 semaines de procès, c'est aujourd'hui que le verdict est attendu au palais de justice de Paris, cette fois-ci, dans le cadre du procès de l'attentat de la prison de Condé-sur-Sarthe. Une attaque terroriste revendiquée au nom du groupe État islamique par un ancien militant néo-nazi radicalisé, Michael Kiolo, 33 ans, le 5 mars 2019. Il avait attaqué et blessé grièvement 2 surveillants à l'aide d'un couteau. La plus lourde peine prévue par le code pénal, la perpétuité incompressible a été requise contre lui. 4 de ses co-détenus sont également jugés pour leur rôle dans la préparation de cette attaque. Et ce matin donc, Florence Turm, la cour s'est retirée pour délibérer après avoir donné une dernière fois la parole aux accusés.
Après l'excellente plaidoirie de mes avocats, je n'ai rien à ajouter, s'est contenté de dire Michael Kiolo. Le principal accusé, auteur de l'attaque au couteau contre les 2 gardiens, a revendiqué son geste à plusieurs reprises au cours du procès et son allégeance toujours intacte au groupe État islamique, jusqu'à proférer des menaces envers un avocat de partie civile et à lancer aux magistrats « Vous êtes mes ennemis ». Sa défense les a exhortés à ne pas le condamner à une mort lente. Cette peine de réclusion criminelle incompressible requise par le parquet national antiterroriste, la perpétuité réelle, une peine très rarement prononcée et que purgent actuellement 2 autres condamnés pour terrorisme, dont Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Le PNAT a également requis la perpétuité avec 30 ans de sûreté à l'encontre d'un autre accusé, Abdelaziz Fahd, 39 ans, poursuivi pour complicité, considéré comme l'instigateur des attentats et qui doit achever tout prochainement la peine qu'il purgeait à Condé. Je me considère comme totalement innocent, a-t-il lancé à la cour. Parmi les deux autres accusés présents dans le box, un seul s'est adressé aux victimes en condamnant les faits et en leur souhaitant le meilleur pour la suite. Jérémy Bailly, déjà condamné pour terrorisme, se lève à son tour, plusieurs feuillets manuscrits à la main, débit précipité et presque incompréhensible. 13 ans de détention sans aucun acte violent, dit-il. Je viens me défendre du chapeau qu'on veut me faire porter. Le parquet a requis 15 ans de réclusion à son encontre. Son avocat plaidait l'acquittement.
Et j'ajoute que le verdict est attendu dans la soirée. Le compte à rebours est lancé avant la fin de la session parlementaire extraordinaire prévue en fin de semaine. Et d'ici là, le gouvernement semble bien décidé à faire voter sa réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille, quitte à passer en force après le rejet du texte par le Sénat, puis l'échec de la commission mixte paritaire. Un premier examen aura lieu cet après-midi à l'Assemblée. Sauf surprise, son adoption ne fait aucun doute. Et quand bien même la proposition de loi sera probablement à nouveau rejetée par les sénateurs mercredi, ce sont encore les députés qui, dès le lendemain, auront, quoi qu'il en soit, le dernier mot. À l'approche des élections municipales, justement, et tandis que de nombreux maires ont tendance à jeter l'éponge en cours de route, l'Assemblée a prévu de débattre aujourd'hui d'un texte visant à créer un statut de l'élu local, manière d'accompagner les vocations et d'encourager l'engagement des édiles avant, pendant et à l'issue de leur mandat. C'est une maladie presque invisible qui touche aujourd'hui entre 15 000 et 60 000 personnes en France. Difficile à diagnostiquer, l'hypoparathyroïdie survient lorsque les quatre petites glandes chargées de régler le métabolisme du calcium dysfonctionnent, souvent après une opération de la thyroïde. Or, depuis quelques mois, Tara Schlegel, les progrès thérapeutiques donnent de l'espoir aux malades.
Parfois, la maladie est transitoire et elle s'estompe au bout de 6 mois. Mais Delphine Bessoni, qui co-préside l'association de patients Hypopara France, se bat depuis 2016 avec des symptômes très handicapants liés au dérèglement de son taux de calcium, en particulier des paresthésies qui sont des fourmillements.
C'est dans les bras, dans la bouche, sur la langue, entre les jambes, dans les pieds, enfin partout. Jusqu'à les cas les plus graves, la crise aiguë, jusqu'à la tétanie complète. C'est-à-dire avec des mains d'accoucheur qui sont complètement crispées à demi ouvertes. Tous nos muscles, en fait, se tétanisent. Jusque certains aux muscles de la gorge, ce qui peut provoquer des spasmes laryngés, donc on a l'impression de même plus pouvoir respirer, quoi.
Et puis il y a le brouillard cognitif, toujours provoqué par le manque de calcium, avec troubles de la mémoire.
Par exemple, mon conjoint peut me dire, mais je te l'ai dit hier, je vais aller chercher les enfants à l'école et j'ai oublié.
Jusqu'à récemment, on se soignait surtout en prenant du calcium, poursuit Delphine.
Moi, je suis montée jusqu'à 18 comprimés de calcium sur toute la journée, mais parce que les symptômes ne s'arrêtent pas. Ça peut arriver à n'importe quel moment, suite à une émotion, à un effort un peu plus violent, par rapport à une chaleur extrême.
Le nouveau traitement développé par la biotech danoise Ascentis Pharma permet d'imiter quasiment l'hormone manquante, la PTH, en se diffusant progressivement dans le corps. En 60 jours, conclut Delphine, son état s'est déjà nettement amélioré.
Voilà, un nouvel espoir donc, enfin, car cette maladie a longtemps été négligée. Pour quelle raison, vous avez, Tara, posé la question, docteur Cécile Gander, elle est endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Comme c'est une séquelle de la chirurgie, il y a une petite part d'occultation de la part du corps médical. Donc il y a ça, plus le fait que les symptômes ils soient aspécifiques. J'arrive pas à aller au travail, j'arrive pas à me concentrer, j'ai des douleurs partout. Alors donc des douleurs partout, le médecin c'est le cauchemar. On dit bon, ok, bah, comment on va faire quoi. Et le fait que ce soit une maladie féminine, ça participe encore plus à la minimisation des symptômes que bon, bah, qu'est-ce qu'elle est un peu particulière quand même, elle est un peu folle, un peu hystérique, tout ça, on a entendu largement. Et donc c'est totalement insupportable. Et donc là quand même, depuis qu'on en parle plus, parce qu'enfin il y a un nouveau médicament, les symptômes sont devenus au premier plan, c'est-à-dire qu'on ne parle plus seulement du chiffre de calcémie, donc le calcium dans le sang, mais une des questions qu'on essaye de faire passer dans les congrès d'endocrinologie, c'est est-ce que votre vie, elle est exactement pareille qu'avant la thyroïdectomie ? C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de dire, vous avez un brouillard cognitif, vous retravaillez, etc., si vraiment on n'a pas le temps. On pose cette question et la réponse, elle doit être oui.
Voilà, le docteur Cécile Gander, endocrinologue, donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle répondait à Tara Schlegel. Agnès Pannier-Runacher juge déjà préoccupante la situation de la ressource en eau. 18 départements sont en situation de crise et 48 autres font l'objet de mesures de restriction, alors même que les nappes ne sont pas dans une situation très dégradée, précise la ministre de la Transition écologique. Le Languedoc, notamment, fait partie des régions qui suscitent le plus de vigilance. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore. encore instable du sud-ouest au nord-est, marqué notamment par des averses parfois orageuses. En revanche, de belles éclaircies devraient revenir par la Bretagne et la Normandie, puis le soleil l'emportera largement sur le quart sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Denray pour le prochain journal de la rédaction.